Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne. De la consommation à nos vies de famille ou même nos loisirs, on s'intéresse à tout et surtout on tente de vous donner nos meilleures astuces en direct jusqu'à midi. Alors ce matin Julia, quelle sera notre grande question du jour ?
Eh bien Mélanie, aujourd'hui on va se demander si nous avons réellement un sixième sens ou si c'est un mythe. Vous savez, je parle de cette petite voix mystérieuse qui pourrait nous inspirer de la bonne façon parfois, ou nous guider. Alors on va partir du principe que oui, ça existe, mais on va se demander aussi si on doit toujours suivre notre intuition. D'ailleurs, tout le monde en possède-t-il une intuition ? Et si ce n'est pas le cas, peut-on développer, voire même aiguiser cette faculté de l'esprit ? On va aborder toutes ces questions ce matin avec plusieurs experts. D'abord, Alexis Champion, il est fondateur et directeur d'Iris École d'Intuition en France. À nos côtés également ce matin, Marie-Estelle Couval, elle est ancienne élève de l'IRIS et ça a tellement bien marché pour elle que maintenant elle y est responsable de la pédagogie et consultante en entreprise.
Et puis étant donné que lorsqu'on parle d'intuition, on peut avoir la sensation que parmi les êtres vivants, l'être humain n'est pas forcément le meilleur, et bien on ira jeter un œil du côté du monde animal pour peut-être s'en inspirer un peu niveau intuition. Pour en parler, Jessica Serra, éthologue spécialiste du comportement animal, sera en ligne avec nous.
Et ensuite à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniques. Il y aura d'abord notre spécialiste beauté Benjamin Lévesque. Il est arrivé ce matin avec des pieds tout neufs, tout doux.
Parce vous avez qu'il a... touché ?
Ah oui, et ça sentait très très bon parce qu'il va nous parler des peelings. Et donc, pas pour le visage, vous avez bien compris, mais pour nos petits petons. Un reportage à haut risque, vous entendrez cela. Et enfin, pour finir, c'est Nathalie Le Breton qui sera avec nous pour sa chronique lecture jeunesse, comme tous les mercredis. C'est la semaine de la presse et des médias. Elle va nous conseiller quelques livres pour les initier justement aux médias.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile et surtout plus agréable. Alors aujourd'hui, on vous propose de réfléchir ensemble à cette question. Avons-nous réellement un sixième sens ? Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez de l'intuition ?
Alors vous, Julia, hein, c'est sûr. Moi, je suis certaine, vous êtes une fille assez intuitive, oui. Ça ouais. C'est obligé. Mais quand on pense en manquer, que peut-on faire justement pour changer cela ? Comment cultiver ou aiguiser cette petite voix qu'on entend parfois dans notre tête ? On verra ça en détail avec nos invités dans quelques minutes, mais avant ça, on va se tourner vers notre fin limier préféré. Il flaire comme personne les bonnes personnes dans la rue pour répondre à nos questions. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement, avant d'accueillir nos invités, j'ai abordé le sujet du jour, le sixième sens. J'adore, très bon film déjà à la base. Et puis sinon, je suis parti dans la rue, justement, jusqu'à la campagne, dans la montagne. J'ai posé des questions à des experts. Je suis allé très loin, non je plaisante. J'ai interrogé comme chaque jour des enfants, notamment ce jeune ado à qui j'ai demandé, mais selon toi, c'est quoi l'intuition ? Comment on pourrait le définir ?
Bah, l'intuition, c'est prévoir quelque chose avant que ça arrive. Bah, t'es sur une descente de ski et tout d'un coup, tu vois que dans l'avenir, il va y avoir une marmotte qui va passer, qui va te faucher. Et ben là, tu vas voir avant, tu vois.
C'est quelque chose que tu viens d'inventer ou ça t'est arrivé ?
Moi, je fais du snow, donc du coup, ça peut pas m'arriver, tu vois.
Tu vois, les jeunes ados et tout. Et les adultes, ils en pensent quoi ? Est-ce qu'ils en ont l'intuition et comment ils la définissent ?
De ouf, tout le temps. J'ai toujours des bons feelings et en général ça marche. Et quand on me dit de pas aller quelque part, ben je m'écoute et ça fonctionne aussi en général.
Ouais, si l'intuition, je pense que ça existe. Enfin, regardez les voyantes, je pense qu'elles ont juste l'intuition un peu plus élevée, quoi.
Alors c'est la frontière justement.
Est-ce qu'elles voient des marmottes ? Parce que
est-ce
c'est ça
voient
le
des
plus
marmottes
important.
Qu'est-ce que l'intuition ? Est-ce que justement c'est le langage corporel ? On va en parler tout à l'heure. C'est comme ça qu'on définit. Je ne sais pas. Mais c'est quoi une voyante d'ailleurs ? Je vais profiter d'avoir des enfants sous la main pour leur poser la question quand même.
C'est des gens qui peuvent voir. Si on est dans le noir, c'est des personnes qui peuvent bien voir dans le noir.
Bah, c'est une dame qui a dans les dessins animés qui a une boule et qui regarde dans la boule.
Voilà, il y a encore du boulot, mais c'est pas le sujet du jour. On va revenir justement à l'intuition et j'ai demandé aux personnes que j'ai croisées la dernière fois que vous n'avez pas suivi votre ou écouté votre intuition, ça a donné quoi ?
Non, parce que parfois je me dis que c'est ma tête qui part un peu trop loin et je m'écoute pas. Et en fait, généralement, je me foire et je me dis que j'aurais dû m'écouter.
La dernière fois que j'ai pas suivi mon intuition, c'est le jour où j'ai rencontré mon mec. Donc bon, j'ai bien fait de pas la suivre.
La dernière fois que je l'ai pas écouté, il y avait plus de frites à la cantine. J'étais un peu déçu.
Voilà, ça peut être des petites intuitions comme ça.
Deux salles, deux ambiances.
Exactement. Et je rajoute une troisième salle. Il y a ceux qui suivent leur intuition en disant « je le sens » et arrivé au moment donné, il fallait pas comme par exemple pour les rendez-vous Tinder ou les rendez-vous galants.
il y a un mec qui devait venir chez moi et je m'étais dit que c'était une mauvaise idée, que c'était pas bon parce qu'après 24 heures, tu fais pas venir des mecs chez toi. Et quand même, il est venu et ça a été le moment le plus mortifiant de ma vie parce qu'on avait rien à se dire. Il est venu juste pour manger de la pizza, il voulait pas enlever sa casquette et il avait une moustache. Et du coup, il est venu pour rien. Et il est parti après.
Voilà, il vit heureux et heureux. S'il avait une moustache en plus, c'est
n'importe quoi. J'espère que la pizza a été bonne. Merci Clément pour ce, pour ce reportage très instructif. Je pense qu'on a déjà pris un bon départ sur notre sujet du jour. Grâce à vous, on va se pencher plus en détail à présent sur notre intuition, grâce à nos invités. Je commence par vous, Alexis Champion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur d'IRIS, école d'intuition en France. À nos côtés également ce matin, Marie-Estelle Couval, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes une ancienne élève de l'IRIS, donc, dont vous êtes aujourd'hui responsable de la pédagogie et consultante en entreprise. Donc Alexis, je reviens vers vous, on va reprendre les bases pour démarrer. C'est quoi déjà la définition de l'intuition? Est-ce qu'on peut parler même de sixième sens?
Alors c'est déjà intéressant de parler, d'avoir ces deux mots, de les mettre en parallèle, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 10 ans. Mm-hmm. Donc il y a une évolution de la prise de conscience de ce que ça pourrait être. Et la définition du dictionnaire, somme toute, elle est assez simple. C'est une connaissance immédiate de la vérité qui ne fait pas appel au raisonnement. Mmh. Donc en fait, c'est une connaissance, c'est une information qu'on va avoir, si ça existe, soit du ressenti, ou du sensoriel, ou des idées.
Et vous pouvez nous donner un exemple ou deux qu'on voit à peu près, je ne sais pas, des exemples d'intuition?
Oui, les deux grands classiques, on va dire, c'est ce qu'on va appeler communément le pressentiment. Mmh. Donc là, en fait, c'est des micro-mouvements qui se déploient dans le corps. Notamment ce qu'on appelle le ressenti des tripes, là c'est dans l'estomac et les intestins. Et ces micro-mouvements, quand ils sont conscientisés, c'est ce qu'on va appeler du ressenti. Mm-hmm. Et on peut avoir, et on va toujours avoir en fait, même si on n'en a pas conscience, ce type de ressenti quand il va se passer tel ou tel type d'événement. Mm-hmm. Et en fait, les ressentis vont s'exprimer en nous selon que l'événement va être plutôt pertinent, intéressant, etc., ou dangereux, par exemple. Mais on n'arrive pas à conscientiser souvent ce qui se passe, mmh. et surtout, on n'arrive pas à déterminer dans quel sens ça va. Vous voyez, c'est ça.
D'accord.
Le pressentiment.
Donc ça, ça part du ventre. Il y en a un deuxième aussi, alors, une deuxième fois.
Alors ça, le pressentiment, il s'exprime dans tout le corps. Ouais. Donc, par exemple, dans les pupilles, ça va se dilater ou se rétrécir. Mm-hmm. Dans la transpiration, partout dans le corps.
Ça s'exprime.
Voilà. Et puis, sinon, on a ce qu'on appelle la créativité, c'est-à-dire l'intuition qui va nous générer des idées. Et là, avec les cinq sens, avec des concepts aussi qui vont venir. Mm-hmm. Et c'est de là d'où viennent toutes les créations qu'on a. Parce que le raisonnement, je reviens sur la définition, c'est du non-raisonné, en fait, l'intuition. Oui. Mmh. Le raisonnement, lui, s'appuie sur ce qui est connu, mais il ne va pas être capable de générer vraiment de nouvelles idées.
Bien
alors
sûr.
Qu'intuition, oui, c'est ça sa caractéristique.
Marie-Estelle Couval, certains dans le micro-trottoir de Clément évoquaient les voyantes. Ou, l'intuition, ça n'a rien à voir avec quelque chose de paranormal, hein, on est d'accord?
Ah non, mais là, en fait, on a tous de l'intuition, donc il n'y a rien de paranormal dans l'intuition, c'est une capacité naturelle. Et sinon, on est tous paranormaux. Quoi. Mmh. On a tous de l'intuition, donc ça voudrait dire qu'on est tous paranormaux, qu'on a tous un super pouvoir. Mais en fait, l'intuition, ce n'est pas un super pouvoir, c'est une capacité naturelle qu'on a tous. Après, la question, c'est comment on la développe, comment on l'utilise.
Oui, est-ce que c'est quelque chose d'inné?
Comment on apprend à utiliser l'intuition? Oui, c'est vraiment une capacité naturelle qu'on a tous, comme la capacité de raisonner. Elle est en nous. Après, la question, c'est de savoir si on l'écoute ou pas, si on l'entend, et donc d'appliquer les clés pour pouvoir utiliser à bon escient son intuition.
Clément?
Est-ce qu'à l'inverse, c'est pas, là vous dites, c'est en nous, est-ce que c'est pas justement l'accumulation d'expériences de vie et d'observations qui développe ou qui crée ça?
Alors là, Alexis donnait la définition de l'intuition qui est l'intuition, c'est vraiment un savoir qui ne repose sur aucune expérience, aucun raisonnement en amont, aucune information. Elle ne s'alimente sur rien, elle voyage hors véhicule. Alors que le raisonnement, lui, s'alimente d'informations perçues en amont. Je regarde des choses, j'interprète, mon raisonnement interprète tout de suite dès que je perçois des choses. L'intuition, elle est hors champ d'expérience, hors analyse, hors rationalité, etc. Donc, on n'est pas dans la définition, dans la vraie définition de l'intuition, quand vous évoquez l'observation en amont, l'expérience en amont. L'intuition, c'est vraiment quelque chose de pur, une perception
qui surgit,
pure.
Quoi.
Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est immédiate, que c'est une évidence, on parle de flash. Il y a plein de termes pour définir l'intuition en fonction de notre vécu, de nos croyances. Le flash, l'évidence, la petite voix, le sixième sens. Mais avant tout, c'est une connaissance qui est immédiate parce que justement, elle surgit de nulle part.
Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, on va continuer sur Europe 1 à réveiller peut-être notre intuition qu'on a tous en nous, mais que l'on ne sait pas toujours bien écouter, on l'a compris. On va vous apprendre comment le développer, ce sixième sens, qui peut vraiment nous être utile, très utile même au quotidien. On va vous donner tous nos meilleurs conseils sur le sujet, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on décortique ensemble ce qu'est vraiment l'intuition, le sixième sens. On l'a tous, semble-t-il, à la naissance, mais on ne sait pas toujours comment l'écouter. C'est justement ce qu'on va apprendre à faire avec nos invités ce matin. Marie-Estelle Couval, ancienne élève de l'IRIS, dont vous êtes aujourd'hui responsable de la pédagogie et consultante en entreprise. Avec nous également Alexis Champion, et vous êtes le fondateur d'IRIS, qui est donc une école d'intuition. D'ailleurs, justement, d'où vous est venue l'idée de créer ce genre d'école? C'est original quand même.
Oui, alors ça existait un petit peu aux États-Unis depuis les années 80-90, mais effectivement en Europe il n'y avait rien du tout. Moi je suis un ancien chercheur en informatique et puis dans la modélisation du comportement humain, justement la prise de décision en situation d'urgence, et l'intuition c'est très lié à ça. En fait, IRIS, ça s'est créé pour répondre au départ à des demandes d'entreprise. C'est du consulting, ce qu'on fait toujours. On travaille aussi pour des artistes, des archéologues, voilà, plein de domaines différents. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas enseigner à d'autres ce qu'on propose en fait, à nos clients.
Alors, je crois que vous proposez des formations pour développer l'intuition, mais c'est donc possible de développer cette petite voix, même tardivement, je ne sais pas, après 50 ans, on peut aller dans une école d'intuition en se disant...
Ou à 46, par exemple. 46,
je me suis planté toute ma vie, j'ai pris les mauvaises décisions, j'arrête.
Oui. En fait, ce que la science a montré, alors il y a des milliers d'études scientifiques sur le sujet, ce que la science a montré, c'est que c'est un processus de perception, comme disait Marie-Estelle, qui s'appuie sur rien du tout, comme expérience acquise, mais c'est vraiment de la perception. Donc c'est comment fonctionne la perception, et une fois qu'on a pris conscience de comment fonctionne la perception, c'est-à-dire ce que l'on fait de manière inconsciente tout le temps, mais on ne sait pas qu'on est en train de le faire, de vraiment s'arrêter dessus et se dire, tiens, quand je perçois quelque chose ou quand je veux me déclencher une nouvelle idée, qu'est-ce qui se passe en moi en termes de ressenti, en termes de sensation, donc du sensoriel, mais qu'on n'a pas...
C'est pas que la vue, c'est pas que l'observation, les cinq sens sont sollicités par ça.
C'est tout d'abord le ressenti, donc les mouvements à l'intérieur du corps, comme on disait tout à l'heure, et puis ensuite il va y avoir la vue, l'odorat, le goût, etc. etc. Exactement comme quand on est petit, là, puis qu'on est en train de tout toucher, tout goûter pour découvrir le monde, bien en fait ce process-là, il se répète en nous à chaque instant, à chaque fois qu'on veut savoir ou à chaque fois qu'on veut obtenir une nouvelle idée. Mais ça va à la vitesse de l'éclair, c'est inconscient. Et en fait, en apprenant ce qui se passe en nous, on va prendre conscience de vraiment, tiens, il y a ça d'abord, puis ça ensuite, etc., etc. Et de le dérouler volontairement, consciemment, on va prendre conscience en fait, des idées qui nous viennent.
Mais c'est quelque chose qui a l'air assez primitif. Moi, ça me fait penser au petit bébé qui naît à la naissance et qui va tout d'un coup, même si on ne fait rien, grimper sur le ventre de sa mère et aller téter le sein parce qu'il sent l'odeur. On ne lui a pas expliqué qu'il fallait le faire. Quand on est bébé, on est très intuitif, animal, comme ça. Et puis on perd ça, Marie-Estelle, c'est ça?
Alors, je vous rejoins dans le sens où c'est une capacité innée donc qu'on a en nous et qui est instinctive. Ouais. Et j'aime bien cette métaphore du petit bébé. En fait, quand on est tout petit, pour explorer le monde et commencer à comprendre le monde, on n'a que nos cinq sens. Déjà, notre corps en mouvement, ça c'est la première phase, le corps en mouvement du bébé qui se déplace pour aller explorer son monde. Et ensuite, les seuls outils qu'il a à disposition pour appréhender son environnement, c'est les cinq sens. Donc il va mettre en bouche, il va secouer, il va écouter, il va jeter. C'est la période un peu dangereuse et touchy pour les parents, d'ailleurs. Et puis ensuite, il va prendre conscience de son environnement spatial, etc. Donc c'est toutes ces étapes qui sont mises les unes après les autres qui constituent son processus de perception et de compréhension du monde. Et en fait, l'intuition, ce processus de perception intuitif se calque exactement sur ce processus-là que développe l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. C'est aussi ce processus de perception qu'on a, nous, dans notre quotidien. Moi, avant de voir ce gobelet, avant de mettre un nom, avant que mon intellect mette un nom sur cet objet-là, je perçois des choses au niveau sensoriel. C'est-à-dire que c'est cylindrique, c'est baron, c'est beige, c'est liquide, c'est frais, c'est rond, c'est arrondi. Je le prends, je l'observe et toutes ces perceptions sensorielles accumulées me donnent ensuite l'identification du gobelet. Donc c'est vraiment ce processus de perception ordinaire qu'on applique aussi dans le processus de perception intuitif. Quand on a compris que ça fonctionne comme ça, à ce moment-là, on peut déclencher volontairement l'intuition. On n'est plus dans un phénomène spontané incontrôlée, parce que souvent on pense que l'intuition arrive comme ça, qu'elle nous submerge, qu'on ne peut pas la contrôler. Ouais. Pour le coup, quand on a compris que ce processus fonctionne comme ça, là on peut déclencher à l'envi notre outil intuitif qu'on a tous.
Alors justement, on va parler aussi de ce qui se passe du côté des animaux, hein, parce que peut-être qu'eux aussi, ils sont, on en parlait, hein, de cette espèce de
truc animal.
Instinct animal, ce fameux sixième sens. Tout de suite, on va rejoindre une spécialiste. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, spécialiste des comportements animaux. Est-ce que les animaux sont par nature plus intuitifs que les êtres humains ? Est-ce que, parce qu'on peut imaginer que c'est totalement nécessaire à leur survie, hein ?
Alors oui, d'abord la pensée analytique, hein, on en parlait tout à l'heure, qui fait appel au raisonnement, elle existe chez les animaux au même titre que l'intuition, mais qui elle va jaillir, va arriver de manière soudaine pour permettre de prendre une décision. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'évidemment les animaux bénéficient de cette intuition-là et que forcément ils vont être plus intuitifs probablement que les êtres humains pour deux raisons. D'abord parce qu'ils se retrouvent plus souvent que les hommes, hein, confrontés à des situations d'urgence, comme vous l'avez souligné, où l'enjeu, là, c'est leur propre survie. Donc, ils n'ont pas forcément le temps ni le luxe d'aller dans ce type de situation, de recourir au raisonnement. Ensuite, parce que l'homme lui-même, lui, il va être conditionné, si vous voulez, dès le plus jeune âge, à prendre le temps de la réflexion, à jauger le pour et le contre, et donc à évaluer la prise de risque. Donc, on a aussi l'éducation, le conditionnement de l'être humain, la culture, qui fait qu'effectivement, on va nous apprendre aussi à prendre ce temps-là du raisonnement, alors que l'animal va plus être effectivement dans l'intuition, ce qui n'empêche pas parfois de recourir aussi au raisonnement et à la pensée analytique.
Jessica, est-ce que nos intuitions sont comparables ? Eux aussi, les animaux ressentent comme nous peut-être, je ne sais pas, cette impression de vérité immédiate ? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ?
Oui, nos intuitions sont comparables et puis on peut même aller plus loin parce que tout à l'heure j'entendais notre invité qui parlait donc justement d'intuition créative. Eh bien, les animaux aussi ont ces fameux insights qu'on appelle en science, ces fameux eureka, vous savez, ces moments d'illumination où soudainement tout s'éclaire, où on a trouvé la solution à un problème. Et ça, on a démontré que ça existait chez plusieurs espèces animales très différentes, notamment un éléphant qui était l'éléphant Candula du zoo de Washington, qui a un jour eu l'idée astucieuse d'utiliser un cube comme escabeau pour accéder plus facilement à la nourriture. On a démontré l'existence aussi d'insight chez un perroquet qui est le perroquet Kea. C'est un oiseau qui est absolument formidable, qui utilise beaucoup son bec et ses pattes lorsqu'il cherche de la nourriture, par exemple, ou lorsqu'il joue. Et c'est l'université de Vienne qui a proposé un exercice cognitif à ce perroquet qui consistait à tirer une ficelle pour accéder à de la nourriture. Et les Kea ont résolu le problème avec une grande dextérité et surtout de manière immédiate, en s'aidant à la fois de leur bec et d'une seule de leurs pattes pour faire glisser la ficelle jusqu'à eux. Donc on se rend compte à quel point finalement l'intuition créative, en tout cas les eureka, existent aussi chez l'animal.
Chez l'animal. Merci beaucoup Jessica Serra d'avoir été avec nous. Vous avez écrit le grand livre de l'intelligence animale aux éditions Larousse. Bonne continuation à vous. Alors je reviens vers vous Alexis Champion. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre intuition et interprétation ? Et si oui, c'est quoi la différence ?
Alors une interprétation, c'est une création justement de l'esprit analytique. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on perçoit ou ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qu'on a dans notre environnement immédiat ou ce qu'on a perçu avant, donc ce qu'on appelle nos souvenirs. Mmh. Et c'est exactement ce que disait Marie-Estelle tout à l'heure avec son histoire de gobelet, où on se dit, tiens, je perçois un gobelet, je vais prendre le gobelet, etc. Mais ça, c'est un abus de langage. En fait, on ne perçoit pas le gobelet, on perçoit un objet qui a telle caractéristique sensorielle, et dans notre souvenir, on se rappelle à quoi ressemble un gobelet. Et donc, on va se dire, tiens, ça, c'est probablement un gobelet, cet objet. Donc, c'est ça la définition d'une interprétation, c'est-à-dire qu'on interprète ce qu'on perçoit. Une intuition, si on se rappelle la définition, c'est du non-raisonnement. Donc, ce n'est clairement pas une interprétation. C'est du savoir qui nous arrive directement.
Marie-Estelle, on l'a dit, vous avez été une ancienne élève de l'IRIS, vous êtes formatrice aujourd'hui, mais pourquoi vous avez décidé, puis je ne sais pas, vous aviez quel âge, comment ça s'est passé pour vous, pourquoi vous vous êtes tournée vers cette formation ?
Alors, j'approchais de la quarantaine, on va pas te faire de raccourci sur cet âge-là fatidique. Non, en fait, j'étais dans une période un peu chaotique dans ma vie perso et pro. Je crois que c'était, j'avais un besoin urgent de me reconnecter à moi et de savoir qui je suis, vers quoi je tends, peut-être un peu ma mission de vie. En fait, j'étais paumée. Et je crois que à l'époque, mon intellect fort m'empêchait vraiment d'accéder à cette voix intérieure, à cette connaissance de moi-même. Et l'intuition m'a beaucoup aidée. Je me suis intéressée donc à cet outil-là, à cette voie-là, pour aller rechercher une vérité, ma vérité intérieure, ma propre vérité. Et ce, ben voilà, je voulais devenir qui je suis, en fait, deviens qui tu es. C'était ça ma démarche.
Oui, mais comment vous avez fait, Marie-Estelle ? Parce que moi, je suis quand même très intriguée par cette école, et je pense que nos auditeurs aussi. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice pour trouver qui on est, la voie intérieure, l'intuition, le sixième sens ?
Un exemple, pour venir à l'école. Hein.
Oui, mais les exercices concrets, par exemple. Comment je trouve mon intuition, moi ?
Ah, comment, déjà, comment, alors déjà, c'est bien de se poser la question, ouais. D'avoir l'intention de trouver son intuition et d'écouter son intuition. Ça, c'est la première démarche à avoir. Ensuite, bon, mais il y a tout un, il y a énormément de clés pour accéder à son intuition.
Mais ça passe par le corps.
Ça passe déjà par le corps. Donc avoir cette attention de vigilance, de prise de conscience de ce qui se passe dans son corps, parce que l'intuition est avant tout physiologique. Hein, on en parle de gut feeling, les tripes, le cœur qui réagit. Alexis parlait des pupilles, de la pupille. Enfin, il y a plein de manifestations dans le corps pour cette intuition physiologique. Donc, il faut
se reconnecter
déjà,
à tout ça.
Ben, il faut être connecté à son corps, pas uniquement à son mental. Donc, il faut être attentif à ce qui se passe dans son corps, parce que le corps parle, le corps exprime des choses, l'intuition exprime des choses par l'intermédiaire du corps.
Eh bien, merci beaucoup. On va justement véritablement passer à la pratique, parce qu'on est très, très curieuse avec
Mais
Mélanie
oui,
dans
hein.
un instant, sans nécessairement d'ailleurs s'inscrire à une formation. Comment faire pour stimuler ou mieux écouter notre sixième sens au quotidien ? On va tout vous expliquer en détail. Reste une seule chose à faire, restez sur Europe 1.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin, on apprend ensemble à développer notre sixième sens, notre intuition. Et c'est vraiment bien plus utile qu'on le soupçonne dans la vie de tous les jours. Et pour nous guider dans cette voie, nos deux invités sont toujours avec nous. Alexis Champion, fondateur et directeur d'IRIS, école d'intuition en France. Et à nos côtés également, Marie-Estelle Couval, ancienne élève de l'IRIS et aujourd'hui responsable de la pédagogie et consultante en entreprise. Alors on a vu comment on a développé cette intuition, mais concrètement, en quoi c'est utile d'être intuitif dans notre quotidien ? J'imagine que vous avez des exemples.
Alexis.
Ok.
à quoi ça sert en fait ?
Bah, ça sert surtout, si on découpe, on va dire, à deux choses majeures. Ce qu'on a déjà évoqué un peu tout à l'heure, c'est prendre la décision ultra rapide, surtout quand on est vraiment dans une galère. Mm-hmm. C'est-à-dire état d'urgence ou état de cécité, c'est-à-dire où on a vraiment quasi, voire aucune information, le raisonnement ne peut pas se mettre en marche, en fait. Le raisonnement s'écroule. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, je pense que tous les auditeurs, auditrices ont déjà vécu, et vous aussi, c'est, on a l'impression que le temps se dilate, du genre quand il y a des situations exceptionnelles, comme des accidents. Et en fait, le temps, on a l'impression qu'il se dilate parce que justement, le raisonnement s'effondre. Et là, il ne se passe pas plus de temps, en fait. Mais comme notre intuition, elle est ultra rapide, parce qu'elle ne fait pas de lien logique entre les choses qu'on connaît déjà. On a l'impression que ça se dilate. Et en fait, on va être capable de prendre dans des temps extrêmement courts des décisions.
Mais sauf qu'on ne peut pas prévoir qu'on va avoir un pépin qui va nécessiter qu'il faut avoir une intuition forte.
C'est là que si.
Ah bon ?
Oui. C'est-à-dire que la recherche sur le pressentiment, par exemple, montre qu'avant qu'un événement ne se produise, en fait, notre corps il a déjà pré-réagi.
Comme ces oiseaux ou ces animaux qui fuient avant que l'incendie arrive,
avant qu'il y ait un tsunami.
Peut-être, mais il y a aussi autre chose. C'est là où on peut faire le parallèle avec les termes que vous évoquiez tout à l'heure, sixième sens, ou quelque chose qui pourrait paraître un peu magique vu de l'extérieur. Mais on le mesure et on le voit dans le corps, des réactions qui se produisent alors que l'événement n'est pas encore là. Mm-hmm. Donc on perçoit, mais on n'a pas conscience. Par contre, si on est attentif et qu'on sait que ça arrive et que ça peut nous arriver, on peut aller choper ce qui se passe dans notre corps et prendre une décision, dire aller à gauche ou à droite. Voilà.
Marie-Estelle, quand on est très intuitif, j'essaie de donner des exemples dans la vraie vie pour nos auditeurs. Est-ce que par exemple, ça nous aide à mieux cerner les gens au quotidien, à se dire tiens, cette personne, je la sens pas. C'est de l'intuition, ça ?
Alors, l'intuition, déjà, c'est un formidable outil d'information. Donc, ça nous apporte des informations sur tout et n'importe quoi, donc sur des personnes, sur des situations, des événements à venir, etc. Pour répondre à votre question, je le sens, je le sens pas. Il y a une sorte de bloubi-boulga là-dedans, en fait, parce qu'en fait, ça peut être de l'intuition, mais c'est aussi de l'analyse. On a la personne en face, donc on est déjà dans une autre
imaginons elle est très mal habillée,
une analyse
sale,
inconsciente. Voilà,
quoi,
on analyse sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de sa
son
posture.
Langage corporel. Quoi.
Donc on a tout un raisonnement comme ça qu'on conscientise pas forcément et qui vient parasiter peut-être aussi des informations intuitives dans le sens où on a un ressenti, parce que l'intuition c'est du ressenti, on ressent quelque chose dans le corps. Mais tout ça, c'est mélangé avec une espèce d'analyse inconsciente, plutôt consciente, etc.
Mais ça veut dire qu'il faut faire confiance à son jugement. Quand l'intuition surgit, enfin arrive, et qu'on la connecte, et qu'on la suit, et qu'on décide de la suivre, ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi et se dire ce que je ressens, ce que j'ai senti, là, les boubli-boubli-là dans le corps. tout ça, j'y crois et j'y vais. Donc il faut se faire confiance. Non ?
Alors on met de côté déjà toutes ces. Si on met de côté toute cette analyse qu'on a pu conscientiser, j'espère en tout cas, on la met de côté parce qu'on sait que ça vient parasiter l'intuition. Et ensuite, on sait que l'intuition, la définition, hein, on le répète, c'est une connaissance immédiate de la vérité. Donc l'intuition est toujours juste. Donc autant lui faire confiance.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai un exemple. Hein. Je ne sais pas s'il est bon, mais j'ai l'impression, ben, c'est très personnel, mais d'avoir une très mauvaise intuition géographique. C'est-à-dire que quand je suis face à deux chemins, je prends systématiquement le mauvais. D'ailleurs, je connais tellement ce défaut-là me concernant que je prends exactement l'inverse de celui que j'aurais envie de prendre. Ça veut dire que mon intuition, elle n'est pas toujours bonne.
Alors l'intuition, si, elle est toujours juste. Ah. Par contre, tout à l'heure, on parlait des interprétations. C'est-à-dire qu'on va percevoir des choses. Notre intuition nous donne de l'info. Imaginons que c'est gauche la solution. Okay, vous allez à la gauche, c'est ça la solution. Mais tout ce que vous percevez dans votre environnement vous donne aussi de l'information et votre intellect, votre esprit analytique, va interpréter. Et c'est l'intellect, quand on se trompe, quand on se dit « tiens, j'ai eu une mauvaise intuition », en fait, c'est un abus de langage. C'est notre intellect qui a mal interprété l'environnement et qui nous donne une information frelatée. Le truc, c'est qu'on a le message intuitif, comme on disait tout à l'heure, qui va, par exemple, des tripes à la tête, mais on a le message inverse, l'intellect, qui va de la tête aux tripes. Et en fait, on a toujours ces deux flux constamment qui viennent. Et donc, le truc, c'est de faire le tri entre toutes ces infos. Alors apparemment, parfois, voilà, le tri n'est pas toujours bien fait.
Vous réfléchissez trop, mais
ça trie pas bien. En tout cas, en termes de GPS, c'est sûr.
Débranchez un peu votre cerveau, s'il vous plaît. Marie-Estelle Couval, vous faites partie donc de l'IRIS, donc de l'école de l'intuition, et vous êtes notamment consultante et formatrice en entreprise. L'intuition, c'est, on l'a compris, ça peut être utile dans notre vie personnelle pour prendre des bonnes décisions à gauche, à droite, etc. Mais professionnellement, en quoi ça peut être utile ?
Sur plein de problématiques, quand les entreprises viennent solliciter les services d'Iris Intuition, ça peut être pour des problématiques donc de créativité, hein, de création, de design d'objets, problématiques liées à des ressources humaines. Alexis évoquait aussi tout ce qui est problématique archéologique, localisation de sites, apporter des informations sur des objets archéologiques, sur des périodes. On a vraiment tout type de cas de figure sur des problématiques décisionnelles, quel produit lancer dans une période de 5 ans. Ensuite, la spécificité d'être consultante intuitive, donc intuitive professionnelle, quand on est sollicité, l'intuitif ne sait rien. Pourquoi ? On ne lui donne aucune information, on le met en état de cécité, en situation d'aveugle, pour éviter que l'intellect ne s'alimente et commence à interpréter des informations sur la problématique. Donc l'intuitif ne sait absolument rien de la problématique apportée par l'entreprise. Et Alexis est plus à même de répondre justement sur des problématiques précises, parce que il y a plein de choses que je ne sais pas.
Donnez-nous un exemple, par exemple, pour une entreprise qui vous aurait sollicité, sans forcément donner le nom de l'entreprise, mais ça sert à quoi quels sont les métiers où il faut être particulièrement intuitif ?
Alors, dans ce qu'on a eu tout récemment, par exemple, une entreprise de high-tech, on est en plein dedans, qui bosse dans ce qui est moteur électrique pour les voitures. On a travaillé sur aider à... En fait, ce qu'on fait, nous, c'est penser hors de la boîte. Hein. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est aider à identifier, à mieux identifier les matériaux et le processus de fabrication de quelque chose qui intervient dans un moteur électrique. Donc c'est presque de la chimie.
On n'a pas d'intuition là-dessus, Julien.
Donc là, c'est très technique. Ouais. Mais ça peut être aussi, par exemple, une entreprise de vêtements, dans un an, le vêtement qui plaît le plus.
Ça nous parle le plus, Julien, c'est sûr.
Et donc, par exemple, Marie-Estelle, dans ce projet, comme les autres de l'équipe, en fait, sans connaître le contexte, donc sans savoir que c'est pour une entreprise de vêtements, sans connaître que c'est un vêtement en tant que tel, l'objectif, c'est de décrire cet objet, et donc d'avoir les matières, c'est de la laine, etc. Par exemple, il y a de la soie, et puis d'avoir le design de l'objet. Et ensuite, bien sûr, nous, on va livrer ces informations, c'est de la créativité pure, Et les designers vont s'emparer de ces infos et vont réinjecter dans leur process classique. Mmh. C'est-à-dire qu'on vient en amont, en plus de ce qui est fait habituellement. Donc c'est de la créa, en fait, c'est de la créativité.
Oui, vous êtes vraiment en amont de tout, quoi. C'est génial, ça. En amont de la créativité,
ouais,
quoi.
Ou en dernier recours.
Oui, c'est-à-dire que quand là, tout le monde s'est planté, quoi.
Non, mais ça peut être... Bah, ça nous arrive aussi de faire du judiciaire ou des choses comme ça.
Ah oui bah, l'intuition pour retrouver un criminel ou des choses comme ça, c'est génial, c'est passionnant.
On a déjà été mandaté en tant qu'expert judiciaire, par exemple. Donc là, c'est vraiment quand c'est le dernier recours. Donc
bien
c'est
sûr.
Les deux extrêmes.
Puis si vous, ça ne marche pas, on fait appel aux voyantes, là, pour le coup, c'est ça.
Pourquoi pas.
Eh bien, merci beaucoup hein, à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci. Et merci surtout pour toutes ces astuces hein, qui vont nous permettre de mieux tendre l'oreille, désormais d'écouter avec plus d'attention cette petite voix intérieure. Et alors, cette petite voix, Mélanie, elle me susurre qu'on va changer de sujet.
Bravo, Julia. Effectivement, on va passer maintenant à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Nos bons plans du jour dénichés par nos chroniqueurs. Il y aura d'abord les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Il va tout nous expliquer sur cette mode des peelings pour les pieds. On en voit partout et puis grâce à eux, apparemment, on passerait de peau de serpent à peau de bébé. Ensuite, avec Nathalie Le Breton, elle sera avec nous dans sa chronique Lecture Jeunesse. Elle va nous conseiller des livres ce matin pour initier parfaitement nos enfants aux médias. Allez, à tout de suite sur Europe.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter la vie. Alors c'est tous les matins de 11h à midi en direct et à présent, on va donc lancer comme tous les jours notre partie tendance, ces bons plans rien que pour vous. Et dans ce studio justement, pour ce faire, il y a Nathalie Le Breton. Alors bonjour Nathalie.
Bonjour. Voilà.
Bonjour. Donc c'est la semaine de la presse et des médias et vous avez pensé à tout je crois. Hein.
Bah la littérature jeunesse c'est bien hein, pour apprendre, pour ouvrir les focales ici et aiguiser son sens critique et pour nos enfants d'aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel.
Et son sixième sens, peut-être. Aussi.
On va continuer finalement sur le même sujet. Parfait, Nathalie, vous restez avec nous, car avant de parler bouquins, on va se faire chouchouter grâce au conseil de Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour les filles.
Alors ça y est, c'est le printemps, on peut espérer dans quelques semaines pouvoir sortir nos sandales et nos tongs, mais à condition, Benjamin, d'avoir de jolis pieds. Et pour cela, vous avez testé des peelings pour les pieds.
Et oui, les Asiatiques en sont très friands hein, depuis une dizaine d'années. Je vous avais parlé il y a quelques temps de la K-beauty, hein, la beauté coréenne.
Ah oui.
Et bien, ça fait partie de la routine beauté des Coréennes. Et bien, avec les confinements, bien, c'est arrivé chez nous, en France, puisque bah, on ne savait pas quoi faire durant la pandémie. Donc, on a regardé des tutos, des vidéos sur YouTube et on a pris soin de nos pieds. Alors, comme souvent avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Hein, et depuis, ça cartonne, notamment sur TikTok. On a eu 9000 vidéos de peeling de pieds qui ont été vues plus de 200 millions de fois.
Comment ça marche, Benjamin ? Vous avez testé ? J'espère.
Bien
est-ce qu'il est venu pieds nus ? Je vais vérifier.
Non, je suis venu avec des baskets.
On verra pas.
Alors, à faire à la maison, c'est très simple. Alors, vous trouvez un petit peu partout sur les sites de commerce type Amazon. Ça s'appelle peeling ou masque exfoliant pour les pieds. Alors, moi, j'ai testé ceux de la marque Lua, que l'on retrouve d'ailleurs chez Monoprix. Alors, ça ressemble à des chaussons comme ça, en tissu, en papier. Et le produit, en fait, se retrouve à l'intérieur. Donc, vous avez les... Là, je vous le déchire.
Ouais,
vous avez
super.
Un
pied. Chacun pieds, tenez, je vous déjà fait ça.
Je vous le fais passer.
C'est génial.
Hop, alors avant de les enfiler.
Mettez pas votre visage dedans, hein, Julien. C'est pour les pieds.
Quoique.
Ça sent un peu les pieds en même temps.
Alors avant de les enfiler, il faut bien se nettoyer les pieds. On va les sécher et ensuite on peut les mettre. On va laisser poser.
On est d'accord juste pour nos auditeurs, ça s'enfile comme des chaussettes, hein, c'est ça.
Comme des chaussettes. Okay. Et on peut même rajouter des chaussettes par-dessus, hein, ça va encore plus macérer. C'est une heure le temps de pause. Hein, c'est une série Netflix ou un podcast de Bienfait
pour
vous.
Mais il y a quoi dedans ?
Il y a du peeling justement. C'est des acides en fait qui vont forcer le corps, qui vont forcer le pied à se débarrasser de sa peau morte. Je vous rassure, ça ne fait pas mal, hein, ça ne pique pas, c'est juste un petit peu froid, c'est le produit. Et puis au bout de 60 minutes, eh bien, on peut retirer ses chaussons, on les rince. Et alors au début, on est un petit peu déçu parce qu'à première vue, il ne s'est rien passé, on n'a aucun changement sur la peau des pieds. Mais c'est au bout d'une petite semaine, hein, 4 à 8 jours, que la peau bien, va peler, ça va faire comme une peau de serpent, vous savez, qui change de peau. Et là, on va pouvoir retirer, on va arracher la peau morte, ce qui va laisser apparaître une peau toute neuve, une peau de bébé.
Je me souviens parce que dans la semaine, vous m'avez montré vos pieds à l'étape serpent, c'était dégueulasse.
C'était pas très beau. Hein.
J'espère qu'ils sont beaux maintenant. On peut le faire en institut, ce genre de soins, Benjamin ?
Et oui, c'est devenu tellement tendance que les instituts s'y sont mis. Chez Guinot, par exemple, on propose depuis 2 ans le soin foot peeling. J'ai bien sûr testé pour vous. Écoutez.
Vous pouvez vous allonger sur le lit. Je vous laisserai enlever vos chaussettes et vos chaussures. Je vais déjà désinfecter vos petits pieds.
Oui, ils sont si sales que ça ?
Non, vous avez des très beaux pieds, c'est vrai. Je vais mettre essentiellement sur les rugosités. Donc vraiment là où vous avez ce qu'on appelle la corne.
Faut pas être chatouilleux. Hein.
Là, j'ai appliqué le produit. Je vais vous appliquer les petits chaussons du coup par-dessus. Donc c'est en fait pour vraiment avoir ce côté réchauffé pour que le produit agisse plus.
Donc là, vous me laissez avec les chaussons pendant combien de temps?
Je vais vous laisser 10 minutes. Alors, tout va bien, Benjamin?
Ça ne pique pas, ça ne chauffe pas, j'ai vraiment aucune sensation.
Allez, on passe à la râpe.
À la râpe.
Donc là, je vais râper essentiellement là où j'ai appliqué le produit.
Oui, je vois tous les petits bouts de peau qui tombent sur la serviette. Râpé, là. Hein. Stéphanie, est-ce que je peux toucher mes pieds?
Oui, allez-y, faites-vous plaisir.
Ah oui, bah c'est tout doux là, c'est on dirait une petite peau de bébé. Voilà, ça dure une bonne demi-heure.
Il y avait du boulot, j'ai l'impression, hein, chez vous.
Vous allez me montrer vos pieds après. Alors la différence, c'est que le peeling est beaucoup plus concentré et c'est évidemment plus cher, hein, 40 euros, alors que les chaussons que là, je vous ai fait passer à la maison, ça coûte que 4 euros.
Ah oui, quand même. Mais Benjamin, c'est sans danger ces peelings pour les pieds?
Alors c'est vrai que ça a l'air magique comme ça, mais effectivement, c'est pas fait pour tout le monde. On évite de trop en faire si on marche beaucoup, si on est sportif, si on court par exemple, puisque cette peau morte qu'on retire, eh bien, elle n'est pas là pour rien. Elle sert quand même à protéger le pied durant la marche, vous savez, avec la pression du corps. Et donc, sans elle, on risque d'avoir mal en marchant. Et puis, trop en faire, c'est aussi contre-productif parce que si on fait trop de peeling, trop souvent, eh bien, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer encore plus de peau pour protéger le pied. Donc, ça va faire l'effet inverse. Et puis, enfin, avec ces peelings, c'est vraiment interdit pour les personnes diabétiques, comme l'explique Muriel Montanvert, qui est podologue et secrétaire générale de l'UFSP, l'Union française pour la santé du pied.
Le pied du diabétique est quelque chose de très sensible et qui doit être protégé. De par le diabète, on va avoir une perte de sensibilité, donc on ne va pas sentir la même chose. Donc on peut avoir une plaie qu'on ne va pas sentir, qui ne va pas cicatriser et qu'on ne va pas voir et qui peut entraîner des amputations au niveau des pieds. Donc on ne joue pas avec ces produits-là quand on est diabétique, c'est trop risqué.
Voilà, vous avez compris, les podologues ne sont pas très friands de ces peelings. Elles conseillent plutôt d'utiliser une râpe une fois par semaine seulement et de préférence sous la douche, c'est moins agressif pour la peau.
Mais connaissant vos pieds, vaut mieux faire les deux pour vous. Peeling et râpe, je pense que c'est bien. Vous êtes content du résultat? Ils sont comment vos petits petons là?
Ils
les a sortis,
ils sont tout beaux.
Par contre, il faut couper les ongles, Benjamin,
non,
quand même.
Non, mais ça fait... Vous rigolez
Nathalie,
ou quoi?
Nathalie, je vous voyais regarder les produits, ça vous intéresse?
Mais complètement, parce que moi j'ai fait beaucoup de danse africaine, donc pas de commentaires sur l'état de mes pieds.
On veut voir les pieds, Nathalie.
Et des compagnons qui font les commentaires aussi. Et donc, effectivement, on me dit que c'est un truc à essayer.
En tout cas, vous repartirez avec les petits chaussons, Nathalie. Vous êtes une bonne camarade parce que je vous ai vu toucher le pied de Benjamin. Je ne sais pas s'il aurait fait l'inverse. Merci beaucoup. Alors, de la corne, des durillons, tout ça, c'est pas le top. Merci, c'est fini. Grâce à vous, Benjamin, on va retourner tout de suite vers vous, Nathalie, notre Madame Livre Jeunesse. C'est la 33e semaine de la presse et des médias, justement. Alors, qu'on a trouvé comme support littérature jeunesse pour sensibiliser nos enfants à cette liberté fondamentale dans nos démocraties, et bien qui est justement la liberté de la presse.
Absolument. Et l'avantage de la diversité des livres pour enfants, c'est justement qu'elle va pouvoir permettre d'aiguiser l'esprit critique des enfants. Et j'ai envie de commencer avec une belle histoire. Même si on parle de la liberté de l'expression, on se dit « Ah oui, Nathalie va venir avec du documentaire un peu lourd. » Eh bien non, je vous propose une très belle histoire pour commencer, qui est celle d'Azada. C'est Jacques Goldstein qui a signé ce livre et nous sommes là avec une édition francophone québécoise. Julia, vous saviez à quel point je les aime. L'histoire d'Azada, c'est l'histoire d'une petite fille dans un village qui est dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, d'avoir des idées n'existe absolument pas. Les petites filles sont cantonnées à des rôles domestiques, plutôt enfermées chez elles. Et alors cette Azada, elle a la chance un jour de rencontrer une jeune reporter qui vient dans son pays mener l'enquête et couvrir un certain nombre de conflits qui existent dans ce pays. Et cette jeune femme reporter doit partir brutalement, elle est obligée de quitter le pays. Et là la petite fille, elle est complètement désespérée, elle la supplie, emmène-moi avec toi, je veux ta liberté, je veux apprendre, je veux aller à l'école, je veux aller dans les musées, je veux pouvoir témoigner du monde tel qu'il est. Et la journaliste est très embêtée parce qu'elle ne peut pas repartir avec cet enfant, bien évidemment. Et là, elle a l'intuition de lui laisser son sac à dos. Et à l'intérieur de ce sac à dos, c'est la magie de ce métier formidable. À l'intérieur, il y a bien sûr des carnets de notes, il y a des crayons, il y a une boussole, il y a un couteau suisse, il y a aussi des petites bouteilles de gaz. Bref, l'attirail parfait du reporter d'images qui est sur le terrain. Et là, elle va étaler tous ces objets, elle va les regarder et elle va avoir une idée. Elle va réfléchir avec tout ça, elle va avoir l'idée de construire une montgolfière qui va lui permettre d'échapper à sa condition, de voir le monde avec un peu de hauteur, de prendre cette appareil photo et de pouvoir témoigner de ce qui se passe dans son pays. Malheureusement, ça n'est qu'un rêve, mais au moins ça a mis dans la tête de cette petite fille une graine de liberté apportée par l'esprit des journalistes.
Ouh, vous m'avez mis la chair de poule, hein. C'est très poétique.
C'est un très joli livre.
Alors, le thème de l'édition 2022, Nathalie, de cette semaine-là, c'est s'informer pour comprendre le monde. Alors, à l'heure des réseaux, des fake news et dans le contexte actuel, c'est vraiment d'actualité. Hein.
Oui, et on sait qu'aujourd'hui, finalement, l'information, on l'a. On a de multiples réseaux. C'est Duras, je crois que c'est Duras qui disait qu'en 85, on allait être noyé par toutes sortes d'informations, qu'elles soient personnelles, internationales, professionnelles ou autres. Et c'est exactement ce qui se passe en termes de méga-octets et tout ça. C'est énormissime. Donc, je vous ai amené un livre, un documentaire, vraiment pour les enfants de plus de 10 ans, qui s'appelle « S'informer » de Sophie Eustache, qu'on connaît bien, qui est engagée auprès de l'association Journaliste Debout. C'est sorti aux éditions du Ricochet. Et c'est intéressant parce qu'elle explique surtout comment s'approprier les informations aujourd'hui, comment arriver à faire le tri, aiguiser son esprit critique. Alors, vous avez un chapitre sur comment circule l'information, sur comment travaillent les journalistes comme Romain, par exemple, qui vient de nous rejoindre. Est-ce que l'information est libre? Est-ce que l'objectivité est possible? Donc des têtes de chapitres. C'est un livre critique, évidemment, qui nous rappelle la déontologie de nos métiers. Et je pense que c'est un mot qu'il faut remettre à l'honneur, effectivement, dans la tête de nos enfants et leur dire qu'il y a une éthique derrière tout ça. Et ma foi, bon, c'est vrai que pour les plus grands, c'est bien de leur confier tout ça.
Et Nathalie, derrière ce sujet, il y a la fameuse question des points de vue, hein, qui est quand même assez complexe pour les enfants qui, quand même, ont tendance à voir de façon manichéenne les choses, les bons et les méchants, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quand même ça qui les invite.
Et leur faire ouvrir leur chakra sur l'histoire des points de vue. Alors j'aurais pu venir avec des œuvres de Ben, ceci est une pipe, non. J'aurais pu venir avec du Wittgenstein, un philosophe un peu complexe. Non, je suis venue avec un livre pour enfants qui s'appelle C'est un arbre, c'est un film de Delphine Perret. Alors quand vous regardez ça, bien sûr, vous vous dites que c'est un arbre. Mais vous qui circulez peut-être en voiture, Mélanie, vous allez me dire bah non, c'est surtout un obstacle un peu risqué sur la route. Et vous, Julia, vous allez me dire, mais non, mais c'est de l'ombre. Moi, j'adore me mettre, quand il y a du soleil, un petit peu à l'ombre. Et puis Benjamin, qui est à côté, va me dire, mais non, c'est un dessin. Voilà, et on s'aperçoit que quand on regarde cette image qui représente un arbre, les scientifiques vont vous dire c'est un chêne, et donc il y a différents points de vue, chacun c'est voit génial. Midi à sa porte, et finalement l'information, l'attitude journalistique qui devrait être aussi celle de nos enfants face à l'information, c'est d'aller se rendre compte qu'il y a tous ces points de vue et arriver à avoir assez de connaissances pour se faire son propre point de vue à partir de choses qui sont des informations et si possible, pas trop de communication.
Bah donc vous avez bluffé Romain Desarbres.
J'écoutais
cours de journalisme. Merci beaucoup Nathalie. On trouve cette sélection sur europe.fr. Très beau livre. Hein. Ce livre, c'est un arbre qui est magnifique. Hein. Dans les box notissées au thon pour les familles qui sont abonnées. Quant à la semaine de la presse à l'école, elle se poursuit dans les établissements scolaires jusqu'à la fin de la semaine.
Exactement.
Voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi demain?
Alors, tout autre chose, on sait qu'avoir une sexualité épanouie a de nombreux bénéfices, donc demain on a décidé de vous parler désir et surtout plaisir. Que ce soit en couple ou en solo, nos experts vous donneront les meilleurs conseils pour avoir une vie sexuelle la plus heureuse possible. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre c'est Europe Midi avec vous Romain Desarbres. Bonjour, alors quel est le programme?
Bonjour Julia. Le programme, on va parler de la politique migratoire. Après les propositions d'Éric Zemmour, est-ce qu'il faut réformer notre politique migratoire? Beaucoup d'appels déjà au 39-21, vous aurez la parole. Et puis, est-ce qu'on n'a pas retiré le masque un petit peu trop tôt au vu des chiffres du Covid? On en parle également et on en débat dans Europe Midi.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.